Dans le cours de nos études, on est arrivé à la personne de Jésus-Christ. Bien, c'est la personne de Jésus-Christ que nous allons voir. Et donc, on en a déjà parlé un petit peu quand on a parlé de la Trinité. On a parlé que le Seigneur Jésus, non seulement c'est la personne dont il est question dans les évangiles, mais aussi c'est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, et qu'il s'est manifesté dans l'Ancien Testament. On retrouve la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le terme théologique, c'est les Christophanies. Ce sont des manifestations de Jésus-Christ. Et il est présenté comme l'ange de l'Éternel. Et quand les gens ont rencontré l'ange de l'Éternel, ils ont dit, nous avons vu Dieu. Et quand les gens ont dit qu'ils ont vu Dieu, ils se sont prosternés et ils ont adoré. Et c'est jamais un ange n'aurait un ange un des bons anges n'aurait accepté l'adoration. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a accepté. Et donc c'est une des preuves de sa divinité. C'est le monde ne veut pas croire même à l'existence de Jésus-Christ et encore moins à sa divinité. Mais c'est un enseignement clair dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ existait avant sa naissance sur cette terre. Il y a même un passage où le Seigneur Jésus-Christ, parlant aux pharisiens, leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'il a dit que c'est le présent. C'est l'éternité. Abraham est dans le temps et il est dans le passé. C'est fini pour Abraham. Il est mort. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ est. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a dit je suis, il a prononcé le mot que les Juifs ne prononçaient pas. Parce que justement, ce que l'on appelle le tétragramme, les quatre lettres du nom de Dieu, eh bien, veulent dire je suis. Et il a dit je suis. Il a prononcé ce nom. Et jamais aucun juif n'aurait prononcé ce nom-là. Ensuite, vous avez dans l'évangile de Jean tous les moments où le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis. À chaque fois, il a parlé de son éternité et il a parlé de sa personne divine. Quand il a dit, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, aucun homme ne peut venir à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est donc la question de la préexistence et de la divinité du Seigneur Jésus. Et c'est quelque chose qui est attaqué, beaucoup attaqué. Les gens préfèrent croire en Jésus-Christ comme un homme, comme un personnage de l'histoire. Et on a écrit sur lui, on écrira. Et puis, c'est un grand philosophe, c'est un homme sage, il a dit des paroles pleines de bon sens. On le met sur le même rang que les philosophes sages de ce monde. Je me rappelle avoir entendu un chanteur prétendument chrétien chanter Jésus, Mahomet, Bouddha. Et il aurait pu rajouter Confucius et d'autres, hein, il aurait pu, hein. Mais le seul qui a parlé, qui a dit, je suis Dieu. Comme disait quelqu'un, soit Jésus-Christ est un fou, soit il est un sage, soit il est fou, et alors ça ne vaut même pas la peine de l'écouter, soit quand il a dit qu'il était Dieu, eh bien, il faut l'écouter. Et il est ce qu'il est. Mais s'il n'est pas Dieu, c'est un fou. Alors aucun intérêt. Mais nous savons que le Seigneur Jésus est Dieu. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'écouter et de se tourner vers lui. Parce qu'il a dit la vérité. C'est très important. Donc il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc le Seigneur Jésus-Christ, un jour, est venu sur la terre. Il s'est incarné. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le Seigneur Jésus-Christ est né d'une jeune fille vierge. Il est né à Bethléem. Il est né dans une étable. C'est tout ce que la Bible nous dit sur sa naissance. C'est la vérité. Il est né miraculeusement, parce que c'était impossible qu'une jeune fille soit enceinte sans l'intervention d'un homme. C'est par la puissance de Dieu que c'est arrivé. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu comme le vrai Dieu, mais un vrai homme. Il n'a pas cessé d'être Dieu quand il était homme au milieu des hommes. Et quand il est remonté au ciel, il n'a pas abandonné son humanité. Il est toujours vrai Dieu et vrai homme. Et il a vécu une vie humaine comme la nôtre. Il a dû travailler, et il a dû nourrir une famille, il a dû manger, boire, dormir, il s'est déplacé sur ses jambes, et il a eu faim, il a eu soif, on voit qu'il était fatigué. Il a vécu une véritable vie humaine. Il a vécu notre vie humaine, en fait. C'est cette vie humaine parfaite qu'il a vécue qui est devenue notre vie. C'est un peu plus long d'expliquer cela, mais le Seigneur Jésus-Christ est né au milieu des hommes et il a vécu au milieu des hommes. C'est quelque chose de merveilleux. C'est le point central de l'histoire de l'humanité. L'humanité avance dans le passé, elle avançait vers Jésus-Christ, et maintenant l'humanité a connu Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et attend son retour. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Mais le point central de l'histoire de l'humanité, c'est la crucifixion. Quand le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est le point central. Si vous enlevez ce point-là, eh bien, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. La seule alternative, c'est la perdition éternelle. Mais l'espoir de l'humanité, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a vécu une vie d'homme, et cette vie d'homme, eh bien, a été un événement dans cette vie d'homme, c'est la crucifixion, c'est sa mort et sa résurrection. Donc ça, c'est très important de savoir que la personne de Jésus-Christ, eh bien, c'est vraiment ce que dit la parole de Dieu. Et quand nous parlons de ces choses, ce sont des enseignements que l'on trouve dans la parole de Dieu. Alors il est vrai qu'il y a des personnes qui nient que Jésus-Christ soit Dieu, ou certains ont nié qu'il soit homme. C'était une sorte de fantôme humain. Il était Dieu, mais il avait une apparence humaine, et il a vécu, mangeait, mais il ne mangeait pas, il buvait, mais il ne buvait pas, etc. Ça, ce sont des sectes et des mouvements qui disent des choses comme cela. Ils sont, à un certain moment de l'histoire, ils ont été florissants, et puis ils se sont éteints, et puis à un moment ou à un autre, ils sont revenus avec un autre nom. C'est un phénomène qui se répète. Mais ce qui est l'enseignement qui se poursuit au travers de tous les siècles sans jamais s'arrêter, c'est que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il est vrai Dieu, et qu'il est vrai homme. Ça, il n'y a pas de coupure dans cet enseignement. Tandis que les autres, eh bien, il y a un chef qui est religieux, qui un jour trouve une idée géniale que personne n'a eue, mais lui ne s'en souvient pas, mais d'autres l'ont eu avant lui. Quand on parle de témoins de Jéhovah, eh bien, les témoins de Jéhovah ont existé dans le passé. C'est des gens qui niaient la divinité de Jésus, qui disaient qu'il était un être créé, le plus grand des êtres créés, mais un être créé. Eh bien, il y a des sectes dans le premier siècle qui en ont parlé, et les chrétiens les ont combattus. Même l'évangile de Jean est écrit pour ceux qui niaient la divinité du Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand vous lisez l'évangile de Jean, eh bien vous verrez le nombre de fois où les actes du Seigneur Jésus sont des actes divins, sans aucune question. Il guérit un aveugle-né, c'est Jean 9. Il guérit un paralytique qui est depuis 40 ans paralytique, Jean 5. Il ressuscite un mort qui est mort depuis 4 jours, Jean 11. Ces trois miracles sont des miracles divins. Aucun homme ne pouvait accomplir un pareil miracle. Aucun homme. C'est justement pour prouver sa divinité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les je suis, quand le Seigneur Jésus les a prononcés, il les a prononcés dans la langue hébraïque. Et dans la langue hébraïque, je suis, c'est le nom sacré de Dieu, que aucun juif ne se permettait de prononcer. Quand ceux qui recopiaient la Bible écrivaient ce nom, avant de l'écrire, ils allaient prendre un bain. Une fois qu'ils avaient pris un bain, ils mettaient des vêtements propres. Ils prenaient une plume neuve et ils écrivaient le nom. Quand ils avaient écrit le nom, la plume était détruite. Ils allaient prendre un bain. Ils changeaient de vêtements. Il y avait tout un rituel justement à cause de ce caractère sacré du nom. Bon, le rituel n'était pas prescrit dans la Bible et ils allaient un peu trop loin, hein. Ça c'est certain. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y avait un tel respect dans le nom de Dieu que personne ne le prononçait. Dieu avait dit qu'il ne fallait pas le prononcer en vain. Donc, il ne le prononçait pas du tout. Mais le Seigneur Jésus l'a prononcé et il a parlé et il a dit: Je suis. Et c'est exactement celui qui seul pouvait le prononcer véritablement, parce qu'il était ce qu'il a dit qu'il était. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est sa divinité. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Et qu'il est pleinement Dieu, qu'il est pleinement homme. Alors, il y a des versets bibliques. Luc 1, verset 30-35. Ce sont des versets très connus. Alors, Luc 1, 30-35. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et puis, c'était prophétisé dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ne cherchez pas, vous chercherez plus tard. Ésaïe 9, 5. Et donc, il était l'incarnation de Dieu sur la terre. C'est Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et quand Jean parle de la parole, c'est l'ange de l'Éternel dont il est question ici, qui est appelé la parole. Parce que nous, comme je vous l'ai sans doute déjà dit, quand je parlais de la Trinité, le ange de l'Éternel, c'est une traduction, n'est pas traduit. On n'a pas traduit le mot ange. Ça vient du mot, c'est un mot grec qui a été francisé, donc il n'y a pas de traduction. Mais le mot ange veut dire messager. Et ça veut dire aussi, dans une autre forme, c'est le message. Donc le messager, il est la parole de celui qui donne le message. Donc il transmet un message et il parle de la part de quelqu'un. Et le Seigneur Jésus est appelé la parole. C'est une référence à l'ange de l'Éternel. Tout simplement celui qui a parlé de la part du Père aux hommes avant l'incarnation, avant que Jésus vienne sur la terre. Donc c'était l'ange de l'Éternel. Et là, quand Jean écrit, eh bien, c'est une allusion à ce que le Seigneur Jésus-Christ Et il est le messager du Père. Et quand il est venu sur la terre, il a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui m'a demandé de les dire. Il était la parole du Père. Il était celui qui parlait de la part du Père. Donc c'est ce mot parole, eh bien, est une allusion à l'ange de l'Éternel et à la préexistence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand les témoins de Jéhovah disent des choses que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils disent, et la parole était Dieu. Alors ils disent, était un Dieu. Parce que, paraît-il, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que il n'y a pas en grec d'article indéfini. Il y a un article indéfini, mais on n'a pas besoin d'employer l'article indéfini. Mais dans ce cas-là, c'est exactement comme en français. Si je dis la parole était Dieu, c'est ce qu'on appelle en français l'attribut du sujet. L'attribut du sujet ne prend pas d'article, forcément. Parce que l'attribut du sujet, c'est un adjectif. C'est la parole était Dieu. Cela qualifie Dieu. La parole était Dieu. C'est le qualificatif de la parole. Voilà ce qu'elle est, ce qu'est Dieu. Voilà. Donc ces personnes qui nient l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu incarné venu sur la terre au milieu de nous, eh bien, sont contre l'enseignement même de la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, c'était Dieu au milieu des hommes. Dieu parmi nous. C'est ce que veut dire le mot Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Et puis vous avez un autre passage. C'est 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et il y a même des versions où le mot Dieu a été supprimé et c'est marqué celui. C'est dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Parce que les gens ne veulent pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc il y a des traducteurs qui ne veulent pas. Ils disent on a interprété si on dit que c'est Dieu. Donc ils ont mis celui. Mais le texte, lui, a Dieu. C'est pas celui. Car Dieu a été manifesté en chair. Dieu est venu au milieu des hommes. Et ça, c'est la grande nouvelle. C'est quelque chose de merveilleux. Comme je vous ai dit, c'était le tournant de l'histoire. Et c'est le tournant de l'histoire. L'humanité n'est pas la même. Il y a l'humanité avant Jésus-Christ. Et il y a l'humanité après Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ représente, par son incarnation, la solution de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de solution pour l'humanité. Nous sommes comme un troupeau et nous nous engouffrons vers l'éternité et nous allons en enfer sans aucune espérance. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Et il est notre espérance parce qu'il est Dieu. Il est Dieu qui est venu au milieu des hommes et qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père, pour que la justice de Dieu ne s'exerce pas sur nous, parce que la justice de Dieu s'est exercée sur Jésus-Christ. C'est lui qui a subi notre châtiment, c'est lui qui a pris notre place, c'est Dieu qui a pris notre place sur la croix et qui nous a sauvés, qui nous a réconciliés. Et c'est très important de savoir que c'est Dieu, pas un ange. Un ange ne pouvait pas nous sauver. Il n'y a que Dieu qui pouvait nous sauver. La semaine prochaine, on parlera encore sur ce sujet.